en route pour Austerlitz. Premier temps, les Autrichiens sont encerclés dans Ulm en octobre. Deuxième temps, Murat entre dans Vienne en novembre. Troisième temps, la bataille des trois empereurs va avoir lieu près du village d'Austerlitz le 2 décembre. Surprendre, toujours surprendre l'ennemi, c'est l'idée fixe de Napoléon. Prendre de vitesse les troupes adverses, surgir où personne ne l'a prévu. Villeneuve battue, la flotte française désormais insuffisante, les espoirs de débarquement en Angleterre anéantis, Napoléon veut frapper un grand coup. Frapper qui ? Les Autrichiens et leurs alliés, les Russes. Troisième coalition qui comprend aussi l'Angleterre et le royaume de Naples, qui menace de s'avancer dangereusement vers la France. Frapper où ? Là où personne ne l'attend. Près de 200 000 hommes sont disponibles. Mais il faut en laisser à Boulogne, en Italie. 100 000 vont partir vers l'Autriche, s'en aller le plus loin possible, le plus vite possible, et pourquoi pas entrer dans Vienne. Le départ a lieu le 28 août 1805. Ce n'est pas une marche qu'effectue l'armée de Napoléon. Soldats, chevaux, canons, fourgons, munitions, etc. C'est presque une course. De sorte qu'au fil des semaines, seuls les plus résistants demeurent dans les rangs. Déjà, le général autrichien Mack est sur les bords du Rhin. Il s'est installé avec 80 000 hommes dans la ville d'Ulm. Avec une rapidité qui sidère l'adversaire, Napoléon s'empare des ponts sur le fleuve et coupe la route vers Vienne aux Autrichiens qui se sont laissés enfermer. Seul l'archiduc Ferdinand s'enfuit avec 20 000 hommes. Mais ils sont rattrapés par Joachim Murat qui fait de nombreux prisonniers et s'empare du trésor qu'il transporte. La ville d'Ulm est bombardée le 16 octobre. Le 20 octobre 1805, le général Mack se rend. Napoléon s'empare de 60 canons et fait défiler pendant 5 heures devant lui les 27 000 prisonniers qu'il vient de faire. Objectif, Vienne. Et surtout, les troupes austro-russes qui reculent. Reculent au point qu'elles semblent vouloir attirer les Français dans cette solitude continentale où elles n'en feraient qu'une bouchée. Le 13 novembre, le prince et maréchal Joachim Murat entrent triomphalement dans Vienne. Les troupes françaises ont couvert, en un peu plus de 60 jours, 1200 kilomètres. Napoléon va s'installer au château de Schönbrunn. Une semaine plus tard, l'empereur et ses troupes partent vers Brunn, puis atteignent le village d'Austerlitz, qui est immédiatement occupé. Entre Brunn et Austerlitz se trouve un plateau, le plateau de Pratzen. Non loin d'Austerlitz stationnent les troupes ennemies. La logique militaire ordinaire conduit tous ceux qui accompagnent Napoléon à croire qu'il va continuer d'occuper Austerlitz et surtout concentrer ses troupes sur le plateau de Pratzen, d'où il pourra lancer ses attaques. Eh bien non! Napoléon, à la surprise générale, décide d'abandonner non seulement le village d'Austerlitz, mais aussi le plateau de Pratzen. Certains pensent alors qu'un stratège qui désirerait la défaite n'agirait pas autrement. Les deux empereurs qui vont l'attaquer, François II l'Autrichien et Alexandre Ier le Russe, sont persuadés que Napoléon, se sentant en situation d'infériorité numérique, se prépare à rentrer en France. Des éclaireurs sont revenus vers eux avec la nouvelle de l'abandon d'Austerlitz et de Pratzen. Aussitôt, ils mettent leurs troupes en marche. 100 000 Austro-Russes investissent le petit village, puis la plupart d'entre eux s'installent sur le plateau stratégique. Le 29 novembre, l'aide de camp du tsar, le prince Dolgoruki, vient proposer à Napoléon un armistice. Mais les conditions sont tellement exorbitantes qu'il n'est pas même question de négociation. Avant que Dolgoruki reparte, Napoléon feint de redouter une attaque ennemie, tant, dit-il, sa situation matérielle est précaire. Dupé et tout fier, l'aide de camp va rendre compte de son ambassade au tsar et à l'empereur d'Autriche, qui sent alors la victoire à portée de sabre. En réalité, Napoléon est en train de dicter ses volontés à ses ennemis qui les accomplissent à leur insu. Son départ d'Austerlitz et du plateau de Pratzen était comme une invitation aux Austro-Russes. « Allez, venez, installez-vous confortablement sur ce site qui domine la plaine.
Et puis tâchez d'étirer vos troupes sur toute la longueur du plateau, de sorte que leur épaisseur diminue. Diminue.
Et puis, regardez donc à votre gauche, mon aile droite. Elle est bien faible. Et si vous parvenez à l'écraser, vous me coupez la route de Vienne, vous m'encerclez par le sud, et je ne peux plus faire demi-tour. Je suis fait comme un rat. » Le 1er décembre, tout se passe comme l'a prévu Napoléon. Sans se presser, tant la victoire leur paraît certaine, les Austro-Russes commencent effectivement à se porter vers la droite française qui, avec 9000 hommes, d'avoué à leur tête, va devoir, le lendemain, en arrêter 30 000.
Victoire certaine.
Pas pour tout le monde dans le camp russe. Le vieux maréchal Kutuzov, qui connaît bien Napoléon pour l'avoir déjà affronté, tente de dissuader le tsar Alexandre d'engager la bataille. Il pressent un piège. Eh bien, Alexandre l'envoie dormir.
La plus belle soirée de ma vie. Soir du 1er décembre, veille de la bataille. Napoléon, qui est allé avec quelques officiers effectuer une reconnaissance non loin des lignes ennemies, revient vers ses troupes qui sont presque invisibles dans la nuit. Il a d'ailleurs recommandé de ne pas faire de grand feu afin que ceux d'en face ne puissent rien observer qui leur donnerait des indications pour le lendemain. Mais alors qu'il revient vers ses lignes, Napoléon trébuche. Un soldat s'approche, allume une torche, le reconnaît, d'autres imitent son geste. Il est bientôt entouré d'une dizaine de flambeaux. Tout à coup, c'est tout le camp français qui s'illumine de torches, comme les briquets s'allument dans un concert moderne. Pendant que des milliers de cris de joie s'élèvent, étrange et douce rumeur en ce lieu où la mort va frapper. Les soldats viennent de se rappeler qu'un an auparavant, le 2 décembre, leur petit caporal était devenu l'empereur Napoléon Ier. Et ce soir du 1er décembre, c'est la veille de son anniversaire. Des « Vive l'empereur » résonnent longtemps sous l'œil satisfait des alliés qui croient que les Français brûlent leur campement afin de déguerpir plus vite le lendemain matin. « La plus belle soirée de ma vie », dira plus tard Napoléon.
Le 2 décembre, à 7h30, la bataille commence. Comme l'avait prévu Napoléon, les Austro-Russes attaquent son aile droite. La cavalerie de Murat et l'infanterie de Lannes, son aile gauche, s'apprêtent à en découdre avec les régiments du russe Bagration. Napoléon se trouve sur un tertre, non loin du champ de bataille, dont une grande partie est plongée dans le brouillard. Soudain, le soleil apparaît vers 8h, dissipant un instant la brume. Le temps pour Napoléon de constater que le centre austro-russe s'est bien dégarni, comme il l'avait prévu. Les hommes de Soult, massés au pied du plateau, s'impatientent. Finalement, l'ordre d'assaut est donné. Les régiments de Soult escaladent le plateau de Pratzen, émergent du brouillard et surgissent au centre dégarni de l'armée austro-russe dont les deux ailes ne se rejoindront plus. Les soldats de Kutuzov sont ahuris. Mais d'où sortent ces Français qui déferlent dans leurs rangs ? Les deux empereurs comprennent immédiatement dans quel traquenard ils sont tombés. Ils tentent de lancer une contre-attaque, mais leurs troupes sont désormais coupées en deux, en trois, en quatre, et celles de Napoléon s'acharnent sur chacun de ses tronçons, dont l'un termine sa course sur les étangs gelés, près de l'aile droite française. Napoléon fait donner le canon sur les glaces, qui se brisent, des milliers d'Austro-Russes vont périr noyés. Quelques heures ont suffi à Napoléon pour conduire une bataille qui demeure considérée comme la bataille des batailles, comme un exemple de stratégie, à condition de combattre un ennemi aux analyses un peu courtes. On peut imaginer ce qu'aurait été Austerlitz si on avait écouté Kutuzov au lieu de l'envoyer dormir. Eh bien, on n'imagine rien et on se penche sur le bilan de la plus célèbre des victoires de l'empereur. À 16h, la bataille d'Austerlitz est terminée. Elle a duré 9h. On l'a appelée la bataille des trois empereurs, Napoléon, François II d'Autriche et Alexandre Ier de Russie. elle s'est étendue sur un front de près de 20 kilomètres. 65 000 Français ont battu 100 000 Austro-Russes. Les Français se sont emparés de 185 canons sur 272. Le bronze des canons d'Austerlitz servira à l'érection de la première colonne Vendôme. 45 drapeaux ont été pris à l'ennemi. Un seul drapeau français a disparu. Du côté des Autrichiens et des Russes, 12 000 morts ou blessés. Du côté français, 6 000 morts ou blessés.
Voilà un brave. Au soir de la bataille, Napoléon fait cette proclamation. « Soldats, je suis content de vous. Vous avez, à la journée d'Austerlitz, justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Vous avez décoré vos aigles d'une immortelle gloire. Il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour qu'on vous réponde « Voilà un brave ».